Merci beaucoup. David Chabot, chroniqueur en politique internationale. Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Merci d'être là. T'as-tu écouté, tout comme nous, le match d'hier matin?
Ben oui, le cœur qui saigne, là. J'avais pas de breuvage alcoolisé pour absorber tout ça, malheureusement.
Même pas de petit café Baileys?
Non.
Pas de petit café joyeux?
Café sourire, non, il y avait pas de ça. Il y avait juste des mauvais sentiments et de l'amertume à la fin.
Moi, j'ai pris du café Baileys, ce qui fait en sorte que j'étais quand même assez relax, mais café cognac, ça me rendait un peu agressif dans le temps. Quand j'écoutais Game d'Hockey.
C'est quand même rock'n'roll, là, tu sais.
Le cognac?
Ben ouais, mais quoi que toi, d'habitude, on s'en parlait avant d'ouvrir les micros, à 3h du matin, t'es levé. Fait que toi, à 8h, c'est comme midi, 1h.
Exactement.
T'es correct pour du cognac.
Mais je suis un peu comme les beaucerons, là, tu sais. Mettons que tu prends une petite bière à midi, tu te dis quelque part, il est minuit dans le monde, t'as le droit.
C'est ça. C'est la happy hour quelque part.
Exactement. Mm. On peut toujours s'amuser. Fait que t'as passé une belle matinée. J'aime ce genre d'événement-là qui nous unit toute la gang. Tu le sais que t'es pas le seul à écouter ce match-là.
Ah oui, sur Facebook, c'était all over the place. Mais c'est quand même une année difficile. Je repensais à ça, là, tu sais. Les Alouettes qui perdent à la Coupe Grey, les filles puis les gars qui perdent aux Olympiques.
Ouais.
Puis là, il y en a un autre qui me vient pas en tête qu'on a perdu international.
Ben, les Jays qui ont...
Les Jays, oui, c'est ça.
Les Jays. La Coupe Stanley qui est pas revenue encore au Canada depuis 1993 avec les Oilers qui sont inclinés une deuxième fois contre les Panthers.
C'est comme pas une bonne run, là, tu sais. Puis la récolte des médailles, tu viens d'en parler, Max, tu sais, c'est pas si bon que ça malgré le fait que chacune des médailles est chèrement gagnée, on se comprend, là.
Mm-hmm.
Ouais. Nouveau sport au Canada. Puis Québec, tu sais, on... Pas une bonne run, mettons.
Non. On l'a eu difficile. C'est le discours de la désunion demain soir pour Donald Trump.
Ouais, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai hâte de voir s'il va être assez baveux pour regarder tous les juges de la Cour suprême en avant de lui là, puis dire « vous êtes tous des bâtards ».
Ben, Barack Obama l'avait fait à l'époque. Là.
Oui, mais peut-être pas agressivement comme on peut présumer pour mardi. Mais effectivement, ben, t'sais, je veux dire, je pense pas qu'il va le dire avec délicatesse, parce que Obama avait dit « avec tout mon respect, votre décision est cave »,
oui.
Parce que c'était pour du financement politique, là, de dire que... Là,
droit à la liberté d'expression.
C'est ça, tout le monde pouvait financer de la politique, fait que là, ça a ouvert un peu la porte à ce qu'on voit maintenant, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais un discours quand même important, parce que là, t'en parlais tantôt, ça brasse en Iran, le Mexique, bon, c'est pas lié directement avec les États-Unis, mais c'est quand même à la porte d'eux, les tarifs, ça revole partout, donc là, en ce moment, c'est un moment important pour les États-Unis, puis le discours de l'Union, dans le fond, ça vient réaligner tout le monde en disant « voici où est-ce qu'on s'en va avec ça ». Puis voici ce qui se passe, là, bien évidemment. Là.
Est-ce qu'il va expliquer pourquoi l'Iran?
Ben, en fait, il dit déjà. Il dit deux choses. Je veux un changement de régime, puis ça, c'est comme le grand paradoxe de la situation, parce que en juin, ils ont fait des frappes militaires incroyables pour tout faire voler. C'était principalement Israël, mais les États-Unis ont participé, puis ils ont dit « le nucléaire, c'est fini pour 100 ans plus taxes ». Puis là, il nous revient et il dit « hey, là, si on frappe pas, là, il y a du nucléaire d'ici 3 semaines ».
Ouais, puis ça me fait penser à quand on pensait à envahir l'Irak, là.
Oui, c'est la même prémisse.
Les armes de destruction massive qu'ils n'ont jamais trouvées.
Puis changer le régime, finalement. Ouais. On veut tasser le Saddam Hussein de l'Iran, là, c'est-à-dire l'Ayatollah, puis tout ça. Là. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de quincaillerie dans ce coin-là en ce moment. Il y a 200 plus appareils militaires offensifs. Là, donc, je parle pas juste des affaires de logistique. Là, comme
les plus gros portes d'avions, porte-avions qui sont là avec, les avions de chasse.
Oui, exactement. Il y a le Ford puis le Abraham Lincoln. Donc ça, c'est deux gros morceaux. Puis sur la terre, le sol aussi, à Diego Garcia, ils se sont fait refuser, by the way, ça c'est une petite parenthèse, là. L'île de Diego Garcia appartient à la Grande-Bretagne, puis c'est un point important de staging pour tous les bombardiers de longue distance américains, genre les B1, les B2 puis les B-52. Puis là, les UK ont dit « hey, sais-tu quoi, cette fois-ci, ça me tente pas tant que t'ailles parquer tes avions-là pour attaquer l'Iran, fait que trouve-toi une autre option ». C'est quand même un peu, ça démontre le climat actuel, là. Mais j'ai vu une statistique quand même rigolote. Ben rigolote. C'est 30 millions de dollars en ce moment par jour, juste le déploiement proche de l'Iran pour l'armée américaine. Puis ça paraît une peanut, 30 millions par jour, mais quand tu mets ça à l'année, ça fait 10 milliards. Puis le budget complet de l'armée canadienne, c'est comme 24-25 milliards par année.
Donc,
Donc juste l'opération en Iran, là, puis il n'y a pas d'opération offensive. Là. Je te parle juste de payer les salaires, mettre du gaz dans les avions pour faire les patrouilles. C'est 30 millions par jour, donc 10 milliards par année. Puis c'est genre un petit peu moins que la moitié de ce que nous autres on dépense dans toute l'année.
Est-ce qu'il va se réaligner? Parce que les Américains, quand on regarde les sondages, il y en a qui vont dire « ah, je crois pas aux sondages », mais le coût de la vie a augmenté aux États-Unis, ce qui semble déplaire aux Américains. Certains Américains disent « ben, c'est en raison des taxes qui sont imposées par Donald Trump ». Parce que ce qu'il faut comprendre, puis ça, c'est quand Trump parlait des taxes, les gens pensaient que ça allait être nous qui allait être imposé par le gouvernement américain. Mais c'est pas ça. C'est le gouvernement américain qui charge un 10 ou un 15% à quiconque américain décide d'importer des choses du Canada.
Oui, ben c'est le bien est taxé avant d'être acheté, finalement. Mais
donc, les Américains seraient un peu déçus du coût de la vie actuellement, puis ils seraient portés, justement... Bon, s'il y avait des élections demain matin, ce serait pas Trump qui serait choisi. Là.
Non, puis on le voit dans les... Je vais appeler ça des partiels, là, mais il y a eu quelques-unes là, en Louisiane, si je me souviens bien, puis il y en a une autre là, que j'oublie. Ça vire du bord démocrate, là, parce qu'il y a un écart en titre par rapport à ça. Est-ce que tout le monde, toute la base militante MAGA comprend vraiment ces subtilités économiques-là? Je suis pas certain, parce qu'il y a beaucoup d'absolutisme là, de jusqu'au bout. Mais finalement, quand tu penses à ça, une élection générale, tu as besoin d'avoir aux États-Unis environ 48-49% pour passer. Évidemment, les grands électeurs, puis tout, ça change un peu la dynamique. Là, on en a parlé amplement, mais tu n'es pas obligé d'avoir 50% plus 1, dans le fond, pour gagner la présidence. Puis la marge de victoire de Donald Trump n'était pas très, très élevée. Il n'a jamais gagné le vote populaire, en fait. Fait que, tu sais, là, il est déjà dans une posture un peu fragile, puis là, il est dans des politiques très impopulaires. Donc là, à voir jusqu'où ça va aller à l'interne. C'est un président très axé sur l'international en ce moment. C'est un mandat très, très international. À part le ICE, il n'y a pas tant de choses que ça qui se passe à l'interne. Il fait beaucoup de décrets. Là,
ça, ça touche pas le citoyen.
Non.
T'sais, la politique internationale, mais le coût de la vie, l'inflation qui augmente, les coûts à l'épicerie qui augmentent, les biens de consommation qui augmentent, ça touche le citoyen. Puis c'est là, présentement, qu'il est perdant dans sa présidence.
Je pense que oui. Puis il y a même un discours un peu nonchalant par rapport à ça. En disant que, t'sais, ils font des annonces, les posts Facebook, puis tout, que je vais passer en roulant des yeux à chaque fois, parce que je me dis, ces statistiques-là viennent de où? Là, c'est pas domestique, mais il dit, on a réduit là, le déficit commercial de 78%, puis finalement, le vrai chiffre, c'est 0,2%. T'sais. Donc là, en lançant des grandes choses comme ça, en sélectionnant, faisant du cherry-picking sur tes statistiques, tu perds de la crédibilité, puis je pense que là, en ce moment, c'est en train de s'éroder.
La création d'emplois qui est très mauvaise. Il y a eu bien beau congédier la statisticienne en chef. Ça reste que les chiffres sont pas au rendez-vous. Là. C'est la pire année en création d'emplois aux États-Unis là, depuis quoi? Une centaine d'années à peu près?
Oui, exact. Mais tu sais, je pense que le feeling, j'ai l'impression, de cette administration-là, c'est de laisser un leg historique. Puis le leg historique, ça se bâtit par la géopolitique aux États-Unis. Parce que tu sais, personne ne se rappelle, mettons, que Lyndon B. Johnson a fait les grands projets sociaux. Là. Personne ne se rappelle de ça. Tout le monde se rappelle de lui pour la guerre du Vietnam, par exemple. Kennedy, pareil. Il a fait la crise des missiles, il y a eu la baie des cochons, tout le monde se rappelle de ça. C'est quoi ses politiques à l'interne avec les droits civils? Personne ne s'en rappelle. Mm-hmm. Donc là, je pense qu'ils sont un peu en train de bâtir ça, en train de bâtir le grand leg avec Cuba quand on essaie de faire le changement de régime, avec le Venezuela qu'on est allé chercher en hélicoptère. Là, on parle de l'Iran. Ça, c'est la grande roche dans le soulier du Moyen-Orient américain depuis très longtemps. S'il y a un changement de régime, ça va être un petit peu aussi dans du leg historique. Donc, on est beaucoup là-dedans, je pense, en ce moment.
Là, avec la Cour suprême, ça va pas nécessairement bien. Il était fâché. Il a décidé de mettre un 10%. Finalement, il est allé faire un petit somme. Il s'est relevé. Il a dit que ça va être un 15%. Qu'est-ce qu'il peut faire contre la Cour suprême, Donald Trump? Puis, tu sais, aller en guerre, là, ça prend la permission du Congrès. Le Donald Trump peut pas dire « Moi, j'ouvre en Iran, puis on envoie nos soldats directement sur la terre. » Il peut pas faire ça. Ça prend la permission du Congrès.
Pour la guerre, là, juste faire la parenthèse, il y a le droit, je pense, pour 100 jours de faire des opérations offensives avant d'aller chercher l'approbation du Congrès. Donc là, ça s'enligne pour une guerre aérienne. Là. Il n'y a pas d'actifs, mettons, terrestres pour aller rentrer dans l'Iran. Fait que là, je pense que ça serait une des frappes très, très ciblées. Pendant, mettons, 30 jours, on arrête ça, puis boum, on bypasse le Congrès comme ça. Pour ce qui est des tarifs, dans le fond, ce qu'il faut vraiment comprendre que la Cour suprême a dit, c'est pas les tarifs qui sont illégaux, c'est le levier qui est invoqué pour les faire, ces tarifs-là. Donc là, c'est le International Emergency Economic Powers Act. Donc là, c'est tout le temps un nom de projet de loi, mais en gros, ce que ça sert, c'est, par exemple, la Russie envahit l'Ukraine, c'est une situation d'urgence, on met des tarifs d'un coup bang pour essayer de contrôler la situation de façon non militaire. C'est ça l'intention de ce acte-là. Puis là, quand Trump a annoncé, tu sais, on se souvient, là, son annonce avec son grand tableau, avec les tarifs, que ça avait l'air un peu...
Une coroplace, là.
Ouais, ouais, tu sais, une genre de carte de bingo, là.
Ben, les autres, ils nous ont chargé tant, fait que c'est 28%. Lui, c'est 42%. Ouais. On ne sait pas trop pourquoi, là.
C'est ça, c'est un calcul un peu magique, là. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est en invoquant cet acte-là que ça devenait illégal. Mais c'est illégal. Dans le fond, il n'y a pas le pouvoir de faire ça sans le Congrès. Fait que là, il va bypasser ça puis il va trouver une autre façon d'imposer des tarifs. Le 15%, c'est le maximum légalement qu'il peut aller en ce moment. Mais là, clairement, il veut aller au bout de ses rêves par rapport aux tarifs parce qu'il croit tellement qu'il va faire tout ce qu'il peut pour aller en chercher le maximum.
Mais ça nuit aux Américains à l'intérieur?
Ouais, mais ça, c'est pas grave parce que lui, son discours, là, c'est de la démagogie. Là, c'est...
Mais, donc, les midterms, il s'en fout carrément.
Ben, oui, parce que, tu sais, il fait des moves comme justement le Venezuela pour dire, regarde, nous autres, on est un gouvernement fort, tu sais, on est donc bien là pour l'Amérique. Sauf que dans son discours, ce qu'il dit aux gens, c'est croyez-moi, les tarifs, c'est bon. Même si tout ce que tu dis est vrai, là, le fondement économique est très, très, très clair sur les tarifs. Mais il dit faites-moi confiance, là, c'est moi qui vous dis comment ça marche, puis les tarifs, ça va tout nous enrichir. Puis là, ce qui va se passer, c'est que dans la décision de la Cour suprême, il y a un immense flou sur savoir est-ce qu'il faut rembourser ces tarifs ou pas, puis si oui, à qui, puis comment. Il n'y a rien qui est dit là-dessus. Ils sont vraiment juste prononcés sur le fait est-ce que l'utilisation du pouvoir de l'acte en question était légitime ou pas. La réponse, c'est non. À cette heure, t'as collecté les tarifs, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis il a déjà dit dans des truths, là, j'ai essayé de dire des truths parce que c'est pas des vérités, mais que ça allait coûter des centaines de milliards au gouvernement là, de rembourser ces tarifs-là, puis c'était une catastrophe, il fallait pas aller là. Mais d'un bord, c'est comme, ben, t'avais juste à y penser avant, puis de l'autre bord, ben, tu sais, cet argent-là a été collecté en taxes de toute façon. Fait que c'est comme si demain matin, on disait, hey, on lève la TPS, TVQ, faut la rembourser. Ça serait une catastrophe économique à l'interne, je comprends, parce que le gouvernement aurait un méga manque à gagner, mais t'as toujours bien collecté cet argent-là dans les poches de quelqu'un.
Exact.
Donc là, ils s'en vont vers ça. Là. Puis là, ben, ça va faire vraiment mal parce que c'est les entreprises qui vont probablement poursuivre le gouvernement.
Le chef du cartel El Mancho s'est fait tuer. Le cartel El Mancho s'était connu sous le nom du Jalisco Nueva Generation, ce qu'on dit le CJNG. Ça se passe à Puerto Vallarta. Si on se fie à ce qui se passe dans les médias, c'est le chaos total. Ce matin, vers 7h30, je parlais avec un de mes amis qui est un entrepreneur beauceron qui réside maintenant au Mexique. Pour lui, c'est inquiétant ce qui se passe, mais c'est pas dangereux pour lui. Il respecte les consignes, c'est-à-dire il reste à la maison, il sort pas dans les rues. L'impression que lui a directement sur place, c'est que le cartel veut envoyer un message au gouvernement comme quoi ils sont mécontents parce que le cartel achète des policiers, le cartel achète des politiciens. Puis là, ben, la grosse tête du cartel, El Mancho, s'est fait tuer. Donc, ils veulent montrer leur mécontentement, mais à l'heure actuelle, à moins que je me trompe, on ne se serait pas attaqué aux piétons, on ne se serait pas attaqué aux touristes, on ne se serait pas attaqué aux touristes. C'est simplement du bien matériel qui aurait été brûlé. Puis il y a eu des fusillades entre la garde nationale puis les membres du cartel.
Exact. Donc là, c'est pas si dangereux que ça pour l'instant, à la mesure où je suis pas là pour le dire, dans le sens que sur place, c'est peut-être un peu plus effrayant. Mais
lui, il nous dit le contraire.
Tu veux dire?
Mon chum qui est sur place dit le contraire. T'sais, parce que là, Internet n'a pas été coupé, l'électricité n'a pas été coupée, les taux cellulaires n'ont pas été coupés, puis ils font juste brûler des affaires.
Ouais.
Puis se tirer dessus, policiers, puis les méchants. Fait, jusqu'à maintenant, lui se sent en sécurité.
Puis c'est tant mieux, là, parce que j'ai des gens dans mon entourage aussi qui sont là-bas, puis évidemment, on leur souhaite pas du malheur, là, vraiment pas. Mais comme tu dis, dans le fond, c'est on a attaqué des cibles gouvernementales ou en tout cas des symboles pour dire « ça marche pas votre histoire ». Moi, je pense que la situation actuelle dérape un peu parce qu'évidemment, c'est un symbole, puis que ce cartel-là de 20 000, on va appeler ça des soldats, là, il est quand même très, très puissant. Là. El Mancho, c'était pas mal le boss de cartel le plus puissant au Mexique en ce moment. Donc oui, il faut passer un message là-dedans. Là, ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est est-ce qu'ils vont vouloir s'allier à d'autres cartels pour attaquer le gouvernement? Puis là, ça deviendrait vraiment, vraiment dangereux, ça deviendrait une guerre civile. J'ai fait un post hier, j'ai dit c'est comme une micro-guerre civile parce que clairement il y a des civils, même malgré tout ça reste des civils, là, les gens du cartel qui attaquent le gouvernement, l'armée est dans les rues, donc là tu sais il y a comme une espèce de microcosme. Je pense pas que ça va durer longtemps, je pense que le gouvernement va reprendre le dessus parce que en back channel ça va se parler en disant là regarde t'as fait ton show, j'ai fait mon show, on passe à d'autres choses. Par contre ce cartel-là était très centré sur El Mancho. C'est lui qui renaît la patente vraiment comme un CEO d'entreprise, comme un PDG. Ce qui est un peu différent d'autres cartels comme Sinaloa qui étaient beaucoup plus décentralisés, puis tu sais, c'était comme une espèce de communion, un accord d'eux. Là, il y a vraiment le parrain, si on veut, là, le boss du cartel. Fait que là, quand tu tues ce symbole-là, bien là, premièrement, il va y avoir une guerre à l'interne pour trouver c'est qui va être remplaçant. Puis deuxièmement, l'organisation complète est attaquée par le gouvernement, puis est à risque. Donc là, elle va tout faire pour essayer de survivre là-dedans. Moi, j'ai une hypothèse par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'implications américaines dans ce qui s'est passé. Puis là, je suis pas dans les grandes théories du complot négatives envers l'Amérique, mais rappelons-nous qu'en février passé, le gouvernement américain avait déclaré en fait que les cartels étaient des organisations terroristes. Puis en décembre 2025, ils ont aussi dit que le fentanyl était une arme de destruction massive. Donc, additionne les deux ensemble, ça donne le pouvoir, si on veut, de dire « je vais agir, peu importe où ils sont ». Contre des terroristes qui ont des armes de destruction massive. Puis c'est exactement ce que le cartel est.
Est-ce que la présidente pourrait accepter que les Américains rentrent en sol mexicain?
Bien, ça se fait tout le temps. Okay? À l'international, les gouvernements se parlent, puis de façon transparente ou pas, ils disent, ben c'est correct, tu sais, opérer chez nous. En Afrique, ça se passe beaucoup. Là. Il y a des bases militaires secrètes en Pologne, en Allemagne, il y en a partout. Là, donc là, le gouvernement américain est très influent, on le sait, là, un peu partout. Puis au Mexique, c'est très possible que ce type d'opération-là ait été entendu d'avance. On voit par contre que les États-Unis ne se gênent pas non plus d'utiliser leur force armée, même s'ils n'ont pas le droit. Au Venezuela, clairement, ils n'avaient pas le droit puis ils sont allés.
Ouais.
Mais dans ce cas-ci, je ne serais vraiment pas surpris qu'il y ait une implication des forces spéciales américaines, la CIA peut-être, ou bon, la DEA est déjà là-bas.
Il y a quand même une bonne relation entre la présidente mexicaine et Donald Trump. Il y a beaucoup d'ententes économiques à négocier. Donc, tu sais, le fait de faire ce cadeau-là aux États-Unis pourrait être bénéfique pour le Mexique?
Je pense que oui, mais la présidente ne veut pas nécessairement l'admettre publiquement, dans le sens que Claudia Sheinbaum, je ne sais pas comment dire, là, elle, dans le fond, à l'interne, elle a quand même une certaine crédibilité à maintenir. Il ne faut pas qu'elle ait l'air de la marionnette.
T'sais. C'est ça.
Donc là, s'il y a un accord de ce genre-là, que ça soit resté assez privé, je pense que c'est raisonnable. Puis les cartels, sérieusement, il est temps de faire quelque chose avec ça. Ils sont beaucoup trop puissants puis ils ont beaucoup trop d'impact aux États-Unis. Avec l'importation de drogue, oui, puis le trafic humain, puis l'immigration illégale passe beaucoup par là. Donc, c'est pas nécessairement une mauvaise chose d'attaquer ces organisations-là pour les déstabiliser.
9h20 ce matin, on va parler avec Mel Guillemette, qui est propriétaire d'agence de voyage. Puis elle va vous dire, elle va vous donner le topo actuel pour les gens qui sont là, qui vont être rapatriés dans les prochains jours ou les prochaines heures. Puis pour ceux qui ont des voyages de prévu à Puerto Vallarta, elle va vous donner le topo aussi, du moins de ce qu'elle sait. Elle est pas mal en contact avec les gens du gouvernement du Canada sur ce dossier-là. Merci beaucoup, David Chabot.
Merci à vous autres, les boys.
Merci, on se reparle la semaine prochaine. Max?
C'est pas mal beau partout. Tout ce que j'ai à vous dire, là, c'est que la circulation, ça semble être toujours fermée carrément sur l'avenue Henri Bourassa entre rue des Pâquerettes et la rue des Roses en raison d'un bris d'aqueduc.
418-971-101 si vous avez des choses à nous dire. 8h50.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la